France Musique. Stéphane Grant, Lirico Spinto, France Musique.
L'actualité lyrique nous conduit à l'Opéra Royal de Versailles où débute mardi 21 mars une série de 4 représentations du Don Giovanni de Mozart. C'est Marc Minkowski qui y dirige les musiciens du Louvre, c'est Jean-Sébastien Bou qui chante le rôle titre et c'est Yvan Alexandre qui signe la mise en scène et qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Yvan Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est le deuxième volet d'une trilogie Mozart da Ponte qui avait été inaugurée à l'été 2015 avec des Noces de Figaro et dans ce merveilleux théâtre en Suède dont Yvan Alexandre, je vais vous laisser dire le nom parce que j'ai trop peur de l'écorcher.
Non, c'est très simple. Drottningholm, il y a beaucoup plus compliqué. Drottning, c'est la reine, et Holm, c'est le hameau, quoi. C'était étonnant de faire ça à Versailles. Les gens qui voient ça à Versailles voient un peu la même chose, puisqu'il s'agit donc d'un théâtre de cour. Il y a un château et un théâtre historique à côté.
Et voilà. Alors, et théâtre, en tout cas en Suède, que connaissent les cinéphiles via La Flûte enchantée de Bergman, bien entendu, Yvan Alexandre. Est-ce que cette salle-ci, plus l'Opéra Royal de Versailles, comme vous le rappeliez, participe en plein d'un projet d'une création et de la pensée d'un metteur en scène pour remonter cette trilogie Mozart da Ponte et ce Don Giovanni ces jours-ci?
Alors, c'est entre nous deux, ne le répétez pas aux auditeurs, mais pas du tout. Le projet est très antérieur, en fait. À l'origine de l'origine, c'est un projet que j'avais eu dès mes redébuts de metteur en scène il y a une dizaine d'années. Et c'est un projet de théâtre ambulant, pratiquement. C'était destiné, en principe, à tous, sauf à des théâtres historiques, très installés, avec des grands prosceniums. C'était plutôt fait pour être joué dans des endroits qui ne sont pas des théâtres. C'est une trilogie des spectacles qui ne nécessite pas de dessus, comme on dit, c'est-à-dire rien qui descend des cintres, pas de dessous, pas de trappe et choses comme ça, même pas de coulisses, puisque tout le monde est en scène. Donc ça ne nécessite rien qu'un espace assez grand pour y mettre un petit tréteau qui est à nous, et puis un orchestre, bien sûr. Mais un orchestre mozartien, c'est pas non plus du Wagner. Mais à l'origine, non, c'était prévu pour être joué n'importe où, pour être un spectacle très transportable, ce que c'est d'ailleurs, mais je n'avais pas du tout imaginé qu'on se retrouverait dans deux bijoux pareils. Ça marche extrêmement bien. Une fois que le projet s'est mis en route pour de bon, pour du vrai, à Drottningholm et à Versailles, j'ai adapté un certain nombre de choses visuelles, en particulier au niveau des costumes, par exemple, parce que je cherche un peu à disparaître. Enfin, nous cherchons à disparaître, parce que tout est l'air d'être nature, comme ça, sans qu'on y ait réfléchi, comme si ça naissait du théâtre lui-même. Et pour ça, évidemment, il faut être un peu sensible à ce qui vous entoure.
Alors, quand vous dites, Yvan Alexandre, mais heureux début de metteur en scène, est-ce que ça veut dire que quand on se nourrit, j'imagine aussi d'une certaine façon, de beaucoup de productions que vous avez vues comme spectateur et aussi avec un œil critique de ce Don Giovanni de Mozart, qui est sans doute l'un des titres les plus montés du répertoire, quand il s'agit de le mettre en scène, pour le coup, quel est votre désir intime, j'allais dire, qu'est-ce que vous avez envie de donner à voir aux spectateurs et de faire lire aussi dans votre proposition?
Alors, Giovanni, dans le cadre de Don Giovanni, c'est même extrême, puisque c'est tout simplement le premier opéra que j'ai vu.
Ouais.
Je suis venu à la musique pas très tôt, jeune adolescent, enfin, je faisais du piano comme enfant, puis ensuite j'ai fait beaucoup de musique, et pour moi l'opéra était très très loin, c'était tout sauf de la musique, alors franchement. Et en plus, tout musicien que j'étais, mais pas du tout professionnel, et jamais quoi que ce soit de ce genre, ma vraie passion, alors là, ce dont je pensais faire mon métier quand j'avais 13-14 ans, c'était le théâtre. J'allais beaucoup au théâtre, ce qui fait que c'était encore pire. C'est-à-dire que déjà, l'opéra est un peu frustrant pour ceux qui aiment la musique, mais c'est complètement terrifiant pour ceux qui aiment le théâtre. Donc, à l'origine, je trouvais ça grotesque. Je n'y allais pas du tout, et puis j'ai été converti par un certain nombre de spectacles. Pas tellement, d'ailleurs, je dois l'avouer, par ce Don Giovanni que j'ai vu, je ne sais plus, à la fin des années 70, oui, je crois bien, au Palais Garnier. Mais c'était la première fois que j'étais assis, et ce qui m'avait terrifié, c'était les récitatifs. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ces gens ne s'arrêtaient pas pour parler, tout simplement, que c'était très compliqué. À cette époque-là, on n'avait pas de surtitres. Donc j'étais plutôt traumatisé. Le spectacle, je me rappelle, était très sombre. Il y avait quelques chanteurs divins. Je me rappelle qu'il y avait Kirite Kanawa en Donna Elvira, et que tout ça était quand même très beau. Mais j'en étais très vite lassé. Mon amour de l'opéra est venu 2-3 saisons après. Et effectivement, depuis, j'ai dû en voir une trentaine. C'est l'avantage, c'est que du coup, je ne suis pas tellement influencé, puisque j'ai dans la tête tellement de choses complètement différentes, opposées, qui se complètent de telle sorte que c'est un peu comme, vous savez, quand on fait de la peinture, quand on mélange tout, ça finit par faire une espèce de blanc-gris, quoi. Donc, c'est à partir de quoi on peut faire absolument ce qu'on veut. En l'occurrence, ça partait d'un principe, cette trilogie, que Mozart, dans sa vie, un certain nombre de fois, a eu des moyens colossaux, si on veut, toute proportion gardée, mais enfin des grands moyens, avec des grandes distributions internationales, des grands orchestres. Et ça, c'était plutôt Mithridate quand il avait 14 ans, Lucio Silla quand il en avait 17, ou alors après la Clémence de Titus. Et que cette trilogie d'Aponte, qui n'est pas conçue comme une trilogie, mais enfin, il se trouve qu'ils l'ont faite ensemble, qu'ils ont fait 3 opéras ensemble dans une période donnée de la vie de Mozart, ça n'a rien à voir. Ce sont des comédies avec des aspects très tragiques dans toutes, d'ailleurs, hein, des aspects très graves, bien sûr. C'est du drama giocoso, si on veut. Ça veut un peu rien dire. C'est un peu comme quand vous achetez Pariscope et vous voyez comédie dramatique. C'est exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire rien. Ce sont des modes de vie de gens. Ce qu'il y a sur le plateau, c'est des gens, alors des gens très typés, plus typés dans le cas de Don Giovanni. Il n'y a pas dans Les Noces de Figaro, par exemple, un personnage qui vient de l'opéra seria pur, comme Donna Anna ou Don Ottavio. Mais quand même, on n'est pas du tout dans le grand déploiement des opéras écrits pour Milan ou comme Idoménée pour Munich. On est dans un théâtre plus domestique, plus immédiat, plus théâtral, beaucoup plus théâtral. Et c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire une série très, très théâtrale et pas de déploiement de moyens en aucun cas.
Et je vous entends dire, Yvon Alexandre, par exemple, votre souvenir de cette mise en scène du Don Giovanni au Palais Garnier à la fin des années 70, votre premier opéra comme spectateur. Je vous entends dire, rappeler également, oui, Drama Giocoso de ce Don Giovanni créé en 1787 à Prague. On sait que certains metteurs en scène ont tendance à vouloir forcer le trait du côté sombre, aller plutôt vers le noir. D'autres peut-être davantage respecter des lumières plus tamisées, en tout cas plus contrastées, c'est-à-dire plus claires, la couleur de la comédie et puis celle du drame. Et vous ?
Alors moi, c'est un peu compliqué, c'est un peu tout. D'une certaine manière, ce sera au public de juger. Il m'a semblé que l'idéal juge de cette affaire était le public, c'est-à-dire si j'arrivais idéalement à proposer un spectacle où ceux qui veulent voir la lumière la voient, ceux qui veulent voir l'ombre la voient, et ceux qui sont très contents avec les deux le voient aussi. Ma culture théâtrale de base, ce que j'ai relu en boucle, il n'y a pas une année qui se passe sans que je lise, c'est quand même Shakespeare. Plus que j'ai eu des passions, évidemment, des années pour Tchekhov, pour Racine, pour tout ça. Je reviens toujours à Shakespeare et finalement, c'est la même chose. Bon, évidemment, il y a des pièces très noires et des pièces très claires. Mais enfin, dans la plupart des grandes pièces, et pour moi l'idéal, par exemple, dans Henri IV, qu'est-ce que vous voulez choisir entre les pièces, les moments d'une noirceur infinie et les grandes scènes de Falstaff ? Il n'y a aucune raison de choisir. Et c'est un peu fait comme ça, quand même. Surtout dans Giovanni, qui est certainement, si on prend un curseur, celui dont le curseur se balade le plus. De l'extrême comédie, de moments de bouffonnerie qu'on n'a pratiquement pas dans Les Noces de Figaro, comme le trio où on se moque d'Elvira, et évidemment la scène dite finale, c'est-à-dire la scène du souper, qui, elle, est pratiquement la naissance de l'opéra romantique. On passe des Noces de Figaro, en un an, on passe du dernier opéra classique au premier opéra romantique. Mais ça n'empêche pas que... C'est pas parce que c'est romantique qu'on doit fermer la fenêtre et qu'on doit interdire la lumière. Cependant, c'est curieux, par exemple, des gens comme Arnoncourt ont voulu voir dans les trois dernières symphonies une symphonie, ou presque un oratorio muet. Majeur, mineur, majeur, avec la 40e, la sol mineur au milieu, qui serait le mouvement lent, d'une certaine manière, d'une métastructure. Et moi, j'entends un peu ça aussi, c'est curieux, dans cette trilogie, avec les Noces de Figaro en majeur, le grand final de Così fan tutte en majeur, et puis ce gros accord de ré mineur qui vous cueille à froid dans Don Giovanni, et Don Giovanni serait un peu l'andante de cette trilogie. Donc effectivement, c'est un peu plus sombre, on ne peut pas le cacher, et si les Noces de Figaro sont la folle journée, j'ai eu dans l'idée que Don Giovanni était la folle nuit.
Et une toute dernière question que vous allez trouver justement extrêmement basique, vous parlez en particulier de cette dernière scène, la scène finale, la scène du souper. Qu'est-ce qui est difficile quand on est metteur en scène de Don Giovanni? Qu'est-ce qui accroche peut-être plus qu'une chose plutôt qu'autre chose dans le travail, je veux dire, de conception, d'imagination de sa mise en scène, ou pas?
Alors, Don Giovanni est incomparablement plus ouvert que les Noces de Figaro. Les Noces de Figaro, et d'ailleurs ça vaut pour le mariage de Figaro de Beaumarchais, de nombreux metteurs en scène au théâtre comme à l'opéra s'en sont plaints, c'est extrêmement contraignant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'il se passe des choses précises et pas autre chose, mais on peut faire ce qu'on veut, mais enfin c'est quand même ce qui se passe, mais en plus c'est dans le livret. C'est-à-dire que le livret des Noces de Figaro est impitoyablement descriptif. Tout ce qu'on y fait est décrit dans ce qu'on dit. Donc, dès qu'on arrête de le montrer, on entre en contradiction, et cette contradiction devient un exercice cérébral qui peut être rigolo, mais souvent très fatigant, et pour ceux qui le font, et pour ceux qui le voient. Donc, Giovanni est beaucoup moins contraignant. Dans l'immense majorité des cas, vous savez même pas si vous êtes dehors ou dedans. Et ça n'a d'ailleurs pas d'importance réelle. Les lieux sont quelquefois précis, mais quelquefois très vagues. Le cimetière, c'est très précis. Mais souvent, les antichambres de Donna Anna, ça pourrait se passer chez quelqu'un dans une rue, un peu comme Corneille. Ça n'a pas d'importance. Donc pour le metteur en scène, ça vous ouvre un champ beaucoup plus libre, d'une certaine manière. Et c'est ce que nous avons fait, d'ailleurs. Nous avons pris un certain nombre de libertés, pas jamais en contradiction, enfin je ne crois pas en tout cas, mais simplement en fermant les yeux, se demander mais où sommes-nous, finalement? Que nous dit la musique, que nous dit le texte, plutôt que de lire les didascalies. Il y a un problème dans Don Giovanni, pour le metteur en scène, comme en général, si on veut, pas pour moi, mais pour tout le monde, je pense, c'est que c'est un livret, c'est terrible à dire, hein, j'espère que personne ne nous écoute, très mal fait, c'est-à-dire trop vite fait. Je pense que Da Ponte a eu vraiment son temps pour les Noces de Figaro et pour Così, mais qu'à cause du succès énorme, gigantesque même, de la reprise des Noces de Figaro à Prague, qui est à l'origine de la commande de Don Giovanni, il y a 10 mois entre le succès des Noces et la création de Don Giovanni. C'est vraiment, allez-y immédiatement, pondez-moi un opéra comme ça, ex nihilo. D'où d'ailleurs le choix de Don Giovanni, qui est juste un truc de fainéant, où Da Ponte et Mozart se sont contentés de récupérer un livret de Bertati, qui venait juste d'être écrit au mois de février de la même année, 1787, sur de la musique de Gazzaniga à Venise, et le ténor qui chantait à Venise avait ça dans sa valise. Il a dit, tiens, je viens de chanter Don Giovanni. On a pris le machin qui durait une heure, on a fait un grand opéra de 2h30. Mais c'est allé tellement vite que c'est truffé de contradictions et de trucs. C'est assez bancal, en fait, si on lit le livret. C'est plein de trous. Et on est en face de contradictions et de trous. Il faut trouver des solutions, voilà. C'est-à-dire qu'on est en face de questions qui n'existent absolument pas dans les Noces de Figaro, où l'équilibre texte-musique est d'une perfection, ça donne presque le vertige. Alors que là, on est souvent en train de se poser des questions, ça c'est pas possible, trouvons une solution. Et du coup, c'est à la fois plus drôle et quand même plus fatigant.
4 représentations de ce Don Giovanni de Mozart, donc les 21, 23, 24 et 26 mars à l'Opéra Royal de Versailles. Dans votre mise en scène, Yvan Alexandre, c'est Antoine Fontaine qui signe décor et costume, Marc Minkowski qui dirige les musiciens du Louvre, Jean-Sébastien Bou qui chante le rôle-titre avec autour de lui une belle distribution. Et puis j'imagine que vous êtes déjà en magnifique distribution. Et vous êtes vous-même, j'imagine, déjà dans la conception et la préparation du Così de l'été prochain en Suède.
Exactement, c'est le rondeau final.
Merci beaucoup, merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci Yvan Alexandre.
sepulcro raggiando la Sandrina.
Yeah!
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.